Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avait déjà envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse cette divine consolation, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je crois qu'aujourd'hui je vais pouvoir, si Dieu veut, terminer la seconda seconde, donc la troisième partie de la somme, première partie, ensuite la prima seconde, la seconda seconde, et il restera encore après évidemment le gros morceau, à savoir la tertia pars, la troisième partie, et tous les compléments, hein, tous les suppléments écrits à partir du texte antérieur de saint Thomas d'Aquin par le frère Réginald, qui était un des secrétaires de saint Thomas d'Aquin, parce qu'il est mort n'ayant pas terminé la somme. Donc, après avoir terminé, je voudrais terminer les questions 188 et 189 de la seconda seconde. Et ensuite, je ferai un petit discursus sur la vie religieuse pour les enfants à partir d'un texte peu connu de saint Thomas. Il y a quelques mots sur la vocation et l'importance de la soutane, toujours dans l'esprit des dernières questions de traiter sur les états de perfection de saint Thomas d'Aquin. Donc nous en sommes à la question 188 de la seconda seconde, article 6, un très bel article, important. Un ordre religieux voué à la vie contemplative est-il supérieur à un ordre voué à la vie active? Donc saint Thomas va remettre les pendules à l'heure là-dessus. Il va enfoncer le clou pour bien expliquer qu'en fait il faut une union entre les deux. La contemplation pure, sans aucune action, est dangereuse. Pourquoi ? Parce que la contemplation s'adresse plus à l'âme, l'action s'adresse plus au corps, et l'homme étant un composé de corps et d'âme, si je sépare totalement le corps de l'âme, eh bien on obtient un être qui est mort finalement, au moins ici-bas sur ce monde. On aura au ciel, avant la résurrection générale, on aura une séparation entre le corps et l'âme. Mais actuellement, il faut bien comprendre la nécessité de l'union entre les deux. De même que le corps est uni à l'âme, eh bien, il faut que la vie active soit unie à la vie contemplative. Voyons un petit peu ce que dit saint Thomas sur ce sujet. Donc il reprend l'exemple de Marie, sainte Marie-Madeleine, et de sainte Marthe, sa sœur, donc les deux sœurs de Saint-Lazare, à Béthanie. Et vous rappelez l'histoire que j'ai souvent expliquée, une partie de l'évangile qui explique que notre Seigneur Jésus-Christ, qui était venu visiter la famille de Lazare, donc parler, les disciples écoutaient, et il y avait Marie-Madeleine, sainte Marie-Madeleine, qui était au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, qui buvait littéralement toutes les paroles de notre Seigneur, alors que sainte Marthe, sa sœur, était occupée à la cuisine et au service. Et donc, elle se plaint auprès de notre Seigneur en demandant à ce que notre Seigneur Jésus-Christ pousse sainte Marie-Madeleine aussi à venir l'aider. Et c'est notre Seigneur de répondre, « Marie a pris la meilleure part et elle ne lui sera pas ôtée. » Alors, saint Thomas va donc expliquer, il répète d'abord, il reprend ce système de la tuile, il reprend ce qui a déjà été expliqué auparavant, puis il va un peu plus fort, un peu plus loin dans ses explications. Nous avons déjà fait observer, dit-il, qu'un ordre religieux diffère d'un autre principalement par la fin poursuivie, secondairement par les exercices à l'aide desquels il y tend. C'est-à-dire, le but général est toujours le même, bien sûr, dans la vie religieuse. Pourquoi on se fait religieux? Pour sauver son âme, c'est absolument évident. pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ, pour le louer, l'honorer, le servir. C'est la séance d'ouverture des exercices Saint-Ignace. Cependant, il y a plusieurs moyens de servir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'usage de notre liberté. La liberté, c'est quoi? La liberté, c'est le pouvoir que nous avons en notre âme de choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin qui nous est imposée. Donc, il n'y a pas de choix au niveau de la fin, mais il y a un choix au niveau des moyens pour atteindre cette fin. Comme il y a plusieurs moyens pour atteindre la fin qui est la même pour tout le monde, à savoir notre salut, eh bien, il y a donc plusieurs façons de servir notre Seigneur Jésus-Christ. On peut servir notre Seigneur Jésus-Christ avec une vie religieuse plus axée sur la vie contemplative. On peut servir notre Seigneur Jésus-Christ avec une vie religieuse plus axée sur la vie active. On peut servir notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie sacerdotale, dans la vie séculière. On peut servir notre Seigneur Jésus-Christ en dehors de la cléricature dans le monde, comme personne mariée, par exemple, avec des enfants, comme personne mariée sans enfants, si le bon Dieu le veut pour certaines personnes, malheureusement. C'est une croix, mais c'est une croix qu'il faut porter aussi. Et puis même, pour certaines personnes, de tout simplement sauver leur âme en restant dans le monde sans être marié, si telle est la volonté du bon Dieu pour telle personne, ou si le bon Dieu le permet, en tout cas pour certaines personnes. Cependant, la règle générale est donnée par saint Thomas, donc en cet article 6 de la question 188, voilà la règle générale, on estime supérieur l'ordre religieux voué à une fin absolument supérieure. Plus la fin est supérieure, plus l'ordre sera supérieur. Donc si deux ordres ont la même fin, celui qui l'emporte est jugé non selon l'importance quantitative de ses exercices, mais selon leur adaptation à la fin recherchée. Il est plus beau, ça c'est une phrase magnifique, il est plus beau d'éclairer que de briller seulement. De même est-il plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé et de que de contempler seulement. C'est la grande devise de l'ordre religieux auquel appartenait saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin était un prêcheur, ça s'appelle l'ordre des prêcheurs, l'ordre de saint Dominique, fondé au XIIIe siècle par saint Dominique, de Guzman, et la devise de l'ordre, c'était contemplare, contemplata, lis tradere, c'est-à-dire contempler, puis donner aux autres le fruit de sa contemplation. Chaque ordre, en général, un motto, c'est-à-dire comment on appelle ça en français, une petite phrase qui représente l'esprit de l'ordre. Les jésuites, par exemple, étaient ad maiorem, maiorem dei gloriam, tout pour la plus grande gloire de Dieu. Les bénédictins, c'est ora et labora, le travail, la prière et le travail. Donc, je répète cette phrase qui est splendide, il est plus beau d'éclairer que de briller seulement. De même est-il plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé que de contempler seulement. Donc on commence par se remplir soi-même, on remplit son âme des contemplations du bon Dieu, de la contemplation du bon Dieu, des fruits de la contemplation, et ensuite on donne aux autres ce qu'on a emmagasiné. Donc le grand danger, c'est de chercher à donner aux autres sans avoir emmagasiné avant. On ne peut pas emmagasiner sans d'abord se remplir soi-même. Mais d'abord de se remplir soi-même, puis une fois qu'on est rempli soi-même du bon Dieu, à ce moment-là, on peut s'occuper de remplir les âmes des autres. Si on cherche à remplir les âmes des autres sans commencer par se remplir soi-même, on tombe dans l'activisme, ou dans le volontarisme, surtout dans l'activisme. On va remplacer la prière par l'action, et du coup, on va se dessécher. C'est ce que le pape Léon XIII avait condamné par sa lettre contre l'américanisme. Pourquoi l'américanisme? Parce que cette tendance de vouloir privilégier tout le temps les vertus actives contre les vertus passives, au détriment des vertus passives, était très fréquent aux États-Unis. C'est pour ça qu'il a appelé cette hérésie, parce que son étude, l'américanisme. Donc, l'idéal, c'est ça, c'est d'abord de se remplir soi-même du bon Dieu. Une fois qu'on est rempli du bon Dieu, à ce moment-là, d'éclairer les autres. C'est valable pour tous les religieux, mais c'est valable aussi pour les parents, pour tous ceux qui ont charge d'âme. Ceux qui ont charge d'âme doivent faire très attention de se remplir eux-mêmes du bon Dieu avant de s'occuper d'aider les âmes dont ils ont la charge. Sinon, ils se vident. Oui, ils se vident. Saint Bernard explique, si vous voulez, qu'il faut justement faire très attention, afin d'éviter l'activisme, de se remplir d'abord du bon Dieu. Oui. On explique cela avec une comparaison un peu moderne, mais qui je crois, explique bien les choses. Imaginez que vous vouliez arroser votre jardin avec un long tuyau d'arrosage qui est connecté à une source d'eau. Bon, la source d'eau, elle va remplir un réservoir, et pour qu'il y ait suffisamment de pression dans le tuyau pour que le jardin puisse être arrosé correctement pour le jardinier, ben, l'eau de la source va aller d'abord dans un réservoir. Bon. Et lorsque le réservoir est plein, eh bien, la source continue à couler, mais elle ne coule pas très vite, donc elle remplit le réservoir petit à petit. Lorsque le réservoir est plein, on peut puiser dedans à partir du robinet. Et donc, il faut faire attention à ce que l'arrivée, à ce que l'ouverture du robinet, si vous voulez, ne soit pas totalement au fond du réservoir. Pourquoi ? Parce que si le robinet prend sa source, en quelque sorte, est connecté au fond du réservoir, le réservoir va se vider complètement, et puis quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Tandis que si le réservoir est plein et que le robinet n'est pas tout à fait au fond du réservoir, mais par exemple à mi-hauteur, il restera toujours de l'eau. Donc on peut toujours puiser et faire attention de justement d'avoir toujours une réserve d'eau. Malheur à celui qui se retrouve sans eau, il ne peut plus faire son travail. Donc saint Thomas explique davantage. Donc, parmi les ordres religieux, cela occupe le plus haut rang qui sont ordonnés à l'enseignement et à la prédication. C'est intéressant de voir que saint Thomas ne dit pas que ceux qui ont le plus haut rang parmi les religieux sont les contemplatifs. Non. Ceux qui sont ordonnés à l'enseignement et à la prédication. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de tous les plus proches de la perfection de l'évêque. Donc, le second rang appartient aux ordres voués à la contemplation. Et au troisième rang se placent les ordres qui s'occupent d'activités extérieures. Donc, au sommet de l'échelle, si vous voulez, les ordres religieux qui sont ordonnés purement à l'enseignement et à la prédication. Deuxième niveau, en dessous, ceux qui sont voués à la contemplation. Et troisièmement, ceux qui s'occupent d'activités extérieures, donc qui sont dans la vie active. Donc, vous voyez, on voit bien que saint Thomas, pardon, ne place pas ceux qui sont dans la contemplation au premier rang, mais au deuxième rang. Il est évident aussi que quand il dit que ceux qui occupent le plus haut rang sont ceux qui sont ordonnés à l'enseignement de la prédication, il ne veut pas dire que ceux qui sont occupés d'enseignement de la prédication n'ont pas besoin de contempler. Attention, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, plus on veut aller loin, plus il faut justement la racine de la contemplation. Donc ceux qui veulent enseigner et prêcher, avant de prêcher et avant d'enseigner, doivent se remplir eux-mêmes par la contemplation. Donc, il y a un ordre, si vous voulez, dans chacun de ces rangs, la prééminence vient, dit saint Thomas, de ce qu'un ordre est voué à un acte plus élevé dans la même catégorie. C'est ainsi que parmi les œuvres de la vie active, racheter les captifs emporte sur l'hospitalité, et dans la vie contemplative, la prière l'emporte sur la lecture. Mais cependant, dans un cas donné, dit-il, il peut arriver que les œuvres de la vie active l'emportent sur la contemplation. À cause de certaines circonstances, dans certains cas particuliers, il faut plus de vie active. Hein? Par exemple, dans certaines époques de troubles, certaines époques, par exemple, de grandes maladies qui vont emporter des milliers d'âmes. Par exemple, quand il y avait la peste au Moyen-Âge, les religieux sortaient de leur couvent pour s'occuper des malades. Bon, ils seront censés dans la vie active pour s'occuper des mourants, apporter des sacrements aux mourants, et quitter le calme et le confort de leur cloître d'un certain côté pour s'occuper des mourants. Bon. C'est pareil, imaginez des religieuses gardent des malades. Bon, quand il y a des épidémies, il faut qu'elles soient davantage auprès des malades, et donc elles vont non pas faire sauter complètement la vie contemplative, mais passer plus de temps en vie active. Donc saint Thomas donne l'équilibre, la macération de la chair, donc esprit de pénitence, pratiqué sans discrétion, risque d'aboutir à ruiner les forces corporelles. Un ordre n'est donc pas supérieur à un autre pour avoir simplement des observances rigoureuses. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, tout est dans la fin pour laquelle on agit. Et cette phrase que je viens de citer est importante. La macération de la chair pratiquée sans discrétion risque d'aboutir à ruiner les forces corporelles. Et parfois, des gens qui font des pénitences de façon très, très, comment dire, de façon très déséquilibrée. J'ai connu des gens qui ont ruiné leur santé, des religieux par exemple, qui ont ruiné leur santé par des pénitences excessives. Une fois qu'ils avaient leur santé complètement ruinée, ils ne pouvaient plus rien faire. J'ai connu un séminariste comme ça, qui était un très bon séminariste, mais qui était imprudent dans ses pénitences. Et bien, il a fini par se retrouver en hôpital psychiatrique parce que justement, il faisait trop pénitence et donc il n'était plus capable de remplir son devoir d'État. Alors saint Thomas explique en disant que la macération par l'abstinence dans le boire et le manger, et donc par la faim et la soif, se révèle plus efficace que la macération par la privation des vêtements, y a par le froid, la nudité, ou la macération par l'effort physique. D'où l'importance de l'abstinence dans le boire et le manger. Notre Seigneur Jésus-Christ, on le voit très bien, avant les grandes décisions concernant sa vie active, va aller au désert et prier dans le désert. Parfois, il passait un temps excessivement long, jusqu'à 40 jours dans le désert, pratiquement sans boire et sans manger. Donc on voit bien, c'est la conclusion qu'on peut donner de cet article numéro 6 de la question 188. Donc, le plus parfait, c'est une alliance entre les deux. Une alliance entre les deux. Donc, je rappelle la phrase qui, je pense, symbolise qui résume tout l'article. Il est plus beau d'éclairer que de briller seulement. Il est plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé que de contempler seulement. Passons à l'article 7 de la question 188. Posséder quelque chose en commun rabaisse-t-il la perfection de la vie religieuse? Donc, saint Thomas va répondre. D'abord, il rappelle le principe. Le moine qui cherche des propriétés sur la terre, ce n'est pas un moine. Ce n'est pas un moine. C'est dans la vie de Saint Grégoire le Grand, si mes souvenirs sont exacts, qu'il y a une histoire. Il était bénédictin, abbé d'un gros monastère, et une fois un moine qui était, semble-t-il, consumé en sainteté, mort, et donc on a fait la toilette mortuaire avant de faire la messe d'enterrement, la messe des requiem pour l'âme de ce moine qui venait de mourir, et en faisant la toilette mortuaire, on a découvert des pièces d'or qui étaient cousues dans son vêtement religieux, cachées des pièces d'or. Et quand le père abbé, Saint Grégoire le Grand, l'a appris, il n'était pas content du tout, et il a refusé de célébrer la messe en public pour ce moine. Il a fait jeter dans la fosse commune avec les pièces d'or sur son corps. On a mis le corps dans un cercueil, on a jeté les pièces d'or sur le corps, fermé le cercueil et enterré comme ça sans messe. Après, il a quand même fait dire des messes en privé pour ce moine. Donc, Saint Jérôme, ici de Saint Jérôme, Saint Thomas, ici de Saint Jérôme, il parle de ce qu'il appelait les porte-besaces. En condamnant ces philosophes que le peuple appelle les porte-besaces et qui, soi-disant contempteurs du siècle, étant toutes choses pour néant, gardent leur garde-manger avec eux. Donc, certains moines sont comme ça, ils veulent bien pratiquer les vertus de pauvreté à condition de garder une réserve pour les coups durs. C'était Saint François, je vous l'ai déjà expliqué, je pense, dans une autre conférence, Saint François, qui interdisait même de faire des réserves. Quand il y a un jour, il y avait eu pour un couvent franciscain qui ne vit qu'avec des aumônes, qu'avec la mendicité, donc ils mendiaient pour demander leur nourriture, et quand il y avait parfois trop de dons, il interdisait à ce qu'on garde ses dons en réserve pour le lendemain. Il dit non, tout doit être donné aux pauvres, à chaque jour suffit sa peine. Le bon Dieu s'occupe de nous aujourd'hui, il s'occupera de nous demain, et de garder prouve un manque de confiance en bon Dieu. C'est pas forcément à suivre tel quel dans tous les ordres religieux, cela dépend encore une fois de l'esprit de pauvreté qui doit être pratiqué dans tel ou tel ordre, selon les constitutions. Donc il n'est pas interdit du tout de me faire des réserves. Moi j'avoue que je fais des réserves. Quand j'ai un mois où j'ai beaucoup de dons, mais je garde soigneusement les dons dont je n'ai pas besoin ce mois-ci, mais je les mets de côté pour les coups durs qui risquent d'arriver le mois suivant. Donc saint Thomas explique que les jeûnes, l'éveil, la méditation, les écritures, la nudité, l'absence des ressources, ce ne sont pas la perfection, mais des instruments de perfection. Donc la pénitence n'est pas une fin en soi. La pénitence est un moyen pour atteindre la fin. L'absence de toutes les ressources ou pauvreté est un instrument de perfection, ce que l'abandon des richesses écarte certains obstacles à la charité. Donc il voit trois principaux obstacles à la vertu de charité. D'abord, le souci que la richesse apporte avec elle. Le grain semé dans les épines, dit le Seigneur, c'est celui qui a entendu la parole, mais chez qui le souci de ce siècle et la séduction des richesses étouffent la parole. Deuxièmement, deuxième obstacle à la charité, l'amour des richesses va être développé par la possession. C'est-à-dire, plus on a d'argent, plus on en veut. On voit très bien aujourd'hui, dans le monde moderne, les grands milliardaires, eh bien, ils n'ont jamais assez, ils veulent toujours plus. Enfin, troisième obstacle, La vaine gloire et l'orgueil causé par la richesse. Donc la richesse entraîne du souci, on s'occupe beaucoup trop de la richesse et du coup ben, on oublie de remplir son devoir d'État avec le bon Dieu par la voie de contemplation, la contemplation de la vérité. L'amour de la richesse donc va être développé par la possession de l'argent et surtout l'orgueil et la vaine gloire sont causés par la richesse. Donc, si on ne recherche ou possède ces biens qu'en petite quantité, dans la mesure requise pour une vie modeste, le souci qu'ils donnent n'est pas un grand obstacle. Donc, tout va dépendre des constitutions de l'ordre religieux. Là, il parle à des religieux. C'est évident qu'un religieux capucin, par exemple, ou franciscain, doit pratiquer plus la vertu de pauvreté qu'un dominicain qui va sanctifier d'une autre façon. Cependant, l'esprit de pauvreté est nécessaire pour tous les religieux. Et là, une belle phrase de saint Thomas, « Le Seigneur ne défend pas toute sollicitude, mais seulement celle qui serait excessive, excessive et nuisible. Aide-toi, le ciel t'aidera. » Alors ensuite, il va développer les choses en expliquant que la sollicitude pour les choses communes relève de cet amour de charité qui ne cherche pas son intérêt particulier, mais l'utilité commune. La vie religieuse étant ordonnée à la perfection de la charité, laquelle s'achève dans l'amour de Dieu poussé jusqu'au mépris de soi-même, il s'ensuit que la possession des biens personnels s'oppose à la perfection de l'état religieux. Mais le soin que l'on prend des biens de la communauté peut constituer une œuvre de charité. Vous voyez, ce serait une erreur de penser que, puisqu'on vit dans la communauté, donc il faut vivre sans pratiquement rien, quand on a des dons matériels, bon, on s'en occupe pas parce qu'on est dans la vie de pauvreté. Non. Monseigneur Lefebvre insistait souvent là-dessus dans les conférences spirituelles, qu'on ne vivait qu'avec des dons, c'est venir des cônes. C'était grâce aux bienfaiteurs que nous pouvions manger, nous développer physiquement, dans le cadre de la fraternité Saint-Pédis à laquelle j'appartenais à l'époque. Mais Monseigneur Lefebvre voulait en même temps qu'on s'occupe des biens temporels. Si on nous donne une voiture, par exemple pour l'apostolat, mais il s'agit de s'occuper de cette voiture pour qu'elle soit en bon état. Mais j'ai quelqu'un qui dit « Ah bon, je pratique... » la vertu de pauvreté, bon ben je m'occupe pas d'entretenir la voiture parce qu'il faut mettre tout ça entre les mains du bon Dieu, c'est mon Dieu qui s'en occupe, du coup on met plus d'huile on vérifie plus les niveaux d'huile et bien beau jour on coule une bielle et ça coûte une fortune à réparer, pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait son devoir d'état en s'occupant de la voiture correctement, en surveillant le niveau d'huile. Donc le soin qu'on prend des biens de communauté est un devoir et peut constituer une œuvre de charité, quoique susceptible d'en empêcher de plus relever telle que la contemplation divine et l'instruction du prochain. Il en découle donc que la possession même commune des biens surabondants, meubles ou immeubles, est un obstacle à la perfection, mais qu'elle ne l'exclut pas entièrement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la possession des biens nécessaires n'est pas un obstacle à la perfection. Par contre, quand il y a trop d'abondance, l'obstacle à la perfection sera là à cause de l'abondance des biens matériels. On voit très bien dans l'histoire de l'Église comment certains ordres religieux, je pense surtout à l'ordre bénédictin au Moyen-Âge, donc sont devenus, au début, donner un grand exemple de vie de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et puis après, petit à petit, à cause des dons des fidèles, l'ordre est devenu trop riche, et cette richesse a fini par détruire l'ordre de l'intérieur. Je pense que c'est certainement, à mon avis, une des raisons, et je parle en connaissance de cause, parce que j'ai quand même bien connu la fraternité Saint-Pédis de l'intérieur, je pense qu'une des grandes raisons, des raisons principales de la chute de la fraternité, le fait qu'ils sont complètement passés maintenant avec l'église de Vatican II, c'est le fait qu'il y a trop d'argent, trop de bienfaiteurs, trop de dons, et ça fait sauter l'esprit de pauvreté. Et l'esprit de pauvreté qui saute va entraîner la destruction de la vertu de charité. L'argent prend trop d'importance. On finit par exemple par passer du temps à essayer de faire fructifier cet argent dans des placements immobiliers, des placements financiers. Alors que c'est pas du tout le rôle du prêtre. Le prêtre n'a absolument pas à faire ça. C'est pas son rôle de s'occuper de placements immobiliers, placements financiers pour gagner plus d'argent grâce aux banques. Non, c'est pas notre travail. On va regarder un minimum d'esprit de pauvreté tout en s'occupant des biens matériels qui nous sont confiés. Donc le soin que l'on prend des biens de communauté peut constituer une œuvre de charité, quoique susceptible d'en empêcher les plus relevés, de plus relevés tels que la contemplation divine et l'instruction du prochain. Donc il en découle, je rappelle cette phrase, que la possession même commune des biens surabondants, meubles ou immeubles, est un obstacle à la perfection, bien que ne l'exclue pas entièrement. faire attention à ce que les biens matériels dont on a la charge ne viennent pas détruire l'esprit surnaturel de la communauté. Donc pour l'action, là il cite Aristote, encore une fois le grand philosophe qui vivait 4 siècles avant notre Seigneur. Pour l'action, dit Aristote, il faut une quantité de choses, et plus l'action est étendue et relevée, plus il en faut. Le contemplatif, au contraire, n'a pas besoin de tout ça, et le nécessaire lui suffit, et le surplus ne ferait que l'encombrer. Alors ensuite, il va développer, voilà ce que dit saint Thomas, les ordres voués à l'action et aux œuvres corporelles, par exemple au métier des armes, à l'exercice de l'hospitalité, serait donc imparfait s'il ne possédait pas en commun les ressources nécessaires. Mais au contraire, les ordres voués à la vie contemplative sont d'autant plus parfaits que la pauvreté diminue chez eux le souci des affaires matérielles. D'autre part, plus un ordre impose à ses membres le souci du spirituel, et plus la sollicitude des affaires matérielles lui est un obstacle. Donc un ordre voué à l'action va avoir besoin de plus de biens matériels qu'un ordre voué à la contemplation. Bon. Et un ordre voué à la contemplation, s'il est obligé de s'occuper beaucoup de choses matérielles, ben, il ne va pas avoir assez de temps pour la contemplation. L'inverse est aussi vrai. Donc un ordre actif ne peut pas avoir la même vie contemplative qu'un ordre contemplatif. C'est absolument évident. Donc, aux trois formes de vie religieuse dont il vient d'être question, répondent donc 3 degrés de pauvreté. D'abord, les ordres voués aux œuvres communes, corporelles de la vie active, possèdent normalement une certaine abondance de richesses communes. Les ordres voués à la vie contemplative peuvent se contenter de biens moins importants, hormis le cas où ils devraient directement ou indirectement pratiquer l'hospitalité ou assister les pauvres. Enfin, les ordres qui ont mission de communiquer à autrui la vérité contemplée doivent mener une vie aussi affranchie que possible des soucis extérieurs. Donc, quand communiquer à autrui la vérité contemplée, là, c'est la définition, la devise, encore une fois, des dominicains. Hein, donc, contemplare, contemplata, lis, tradere, contempler, puis donner aux autres le fruit de sa contemplation. Donc, le vœu de continence, dit saint Thomas, est supérieur à celui de pauvreté, le vœu d'obéissance leur est supérieur à tous les deux. Donc, il y a une hiérarchie des importances de chaque vœu. En haut, au sommet, il y a la vertu de l'obéissance, puis la vertu de continence, la vertu de chasteté, et enfin la vertu de pauvreté. Donc, obéissance au sommet, puis chasteté, puis pauvreté. Donc, c'est pour cela que le vœu de chasteté est obligatoire pour tous les religieux, tous les clercs à partir des ordres sacrés. N'ayez pas souci du lendemain, dit notre Seigneur. Cela ne doit pas s'étendre comme une défense de rien mettre en réserve pour l'avenir. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, des franciscains qui ne voulaient pas garder de réserve pour le lendemain, correspond à la pauvreté franciscaine. Mais dans d'autres cas, le bon Dieu peut demander davantage. Donc on voit très bien, dans la vie de notre Seigneur, pourtant il était Dieu, et que dans la vie des apôtres, parmi les apôtres, il y en avait un qui avait souci de la bourse pour y mettre l'argent reçu. Il devait recevoir des dons. Mais notre Seigneur n'a jamais refusé ces dons en disant on va vivre comme des anges parce que nous devons être coupés complètement des biens matériels. La pensée du présent nous suffit, dit saint Jérôme. Laissons à Dieu le souci de l'avenir qui est incertain. Donc saint Grégoire disait qu'il redoutait de perdre la sécurité de sa pauvreté comme les riches avares craignent l'ordinaire de perdre leurs biens. Donc Aristote lui-même qualifie le pain, le vin et les autres choses semblables de richesse éternelle et l'argent de richesse artificielle. Donc, voilà. Et comme tous ces détails, ces mises à jour en quelque sorte de saint Thomas sont importantes pour bien comprendre l'importance de cet article, à savoir est-ce qu'il faut posséder quelque chose en commun, est-ce que cela va rabaisser la perfection de la vie religieuse. Donc saint Thomas fait les distinctions qui s'imposent. Donc plus ma vie se rapproche de la contemplation, de la perfection, plus je dois être détaché des biens matériels. Alors passons, encore une parole ici de notre Seigneur, n'ayez pas le souci du lendemain. Mais saint Thomas, vous voyez, donne bien les distinctions, puisqu'il dit, cette parole du Seigneur, n'ayez pas de souci du lendemain, ne doit pas s'étendre comme une défense de rien mettre en réserve pour l'avenir. Donc, ça dépend des ordres. Les franciscains ne pouvaient pas prendre de réserve pour l'avenir. Par contre, ça serait peut-être utile pour... J'ai perdu ma phrase, excusez-moi. Donc, cette parole du Seigneur, n'ayez pas le souci du lendemain, ne doit pas s'entendre comme une défense de rien mettre en réserve pour l'avenir. C'est là, encore une fois, la vertu de prudence va intervenir avec le don de conseil, le don de sagesse, pouvoir appliquer les éléments des constitutions concernant la vie de pauvreté à la situation actuelle hic et nunc. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, avait une bourse pour y mettre l'argent reçu. C'était Judas qui avait le soin de cette bourse. Cependant, saint Jérôme dit, la pensée du présent nous suffit, laissons à Dieu le souci de l'avenir qui est incertain. Imaginez une voiture qui a un long voyage à faire, et puis on veut rouler, et puis on pense même plus à s'arrêter à la station-service pour faire le plein. Et bien, on risque de tomber en panne sèche. C'est pareil dans la vie spirituelle. Donc, saint Grégoire disait qu'il redoutait de perdre la sécurité de sa pauvreté, comme les riches avares craignaient d'ordinaire de perdre leurs biens. Encore une fois, citation d'Aristote, il qualifie le pain, le vin, les autres choses semblables de richesse naturelle et l'argent de richesse artificielle. Article 8 de la question 188, la vie religieuse des solitaires doit-elle être mise au-dessus de la vie de communauté ? Alors, on avance un peu plus vite puisque c'est plus simple. La solitude, comme la pauvreté, n'est pas l'essence de la perfection, ce n'est qu'un instrument. On a déjà cité cet argument. Donc la solitude n'est pas un moyen adapté à l'action, mais plus un moyen adapté à la contemplation. Donc elle convient plus, cette solitude convient davantage aux ordres contemplatifs. Elle convient exactement, dit saint Thomas, aux contemplatifs déjà parvenus à la perfection. Donc au début de la vie religieuse, le commençant en vie religieuse, eh bien, a besoin de plus d'action pour tenir le coup. Puis après, petit à petit, il va augmenter la vie contemplative. Saint Jérôme encore cité, dit « Je préfère que tu sois une sainte communauté et que tu ne sois pas ton propre maître. » Ainsi, Saint Grégoire qui parle « La vie en société est nécessaire à qui s'exerce à la perfection, tandis que la solitude convient à ceux qui l'ont déjà atteinte, cette perfection. Donc la perfection acquise l'emporte sur son apprentissage. Ainsi la vie solitaire, si on l'embrasse dans les conditions voulues, l'emporte sur la vie cénobitique, c'est-à-dire la vie en communauté. Mais si on se jette dans ce genre de vie sans s'être exercé au préalable, il peut être extrêmement dangereux. Le Christ, c'est une citation aussi de saint Thomas, le Christ fait son séjour dans le cœur de celui qui s'applique à la contemplation divine par amour pour Dieu. Encore une fois, cette contemplation, cette vie contemplative doit être réglée par l'action. Donc plus la contemplation est importante, plus il faut une base d'action pour équilibrer la vie spirituelle. Mais l'inverse est aussi vrai. Plus l'action est importante, plus il faut une base de vie spirituelle pour ne pas tomber dans l'activisme. Et le deuxième danger est plus important que le premier en général. Donc ceux qui mènent la vie solitaire sont très utiles à l'humanité, mais on n'acceptait cette vie solitaire que pour ceux qui avaient déjà une forte expérience de vie contemplative, de vie religieuse. Nous attaquons maintenant la dernière question du traité sur les états de perfection, l'entrée en religion. L'entrée en religion. Donc il y a 10 articles. Pour cette question qui est relativement facile, donc je vais aller assez vite. Article 1 de la question 189 de Secunda Secundae, ceux qui ne sont pas exercés à l'observation des préceptes, doivent-ils entrer en religion? Donc il faut encore une fois un équilibre. Voilà ce que dit saint Thomas, beaucoup renversent l'ordre. À l'exemple des hérétiques et des schismatiques, et prétendent abandonner prématurément le régime du lait pour les enfants. Le résultat, c'est qu'ils périssent. Donc, si je donne une nourriture solide trop rapidement à mon bébé, qui est encore au régime du lait, eh bien, il risque de mourir parce qu'il n'est pas encore capable de digérer la nourriture solide. Mais il faut un équilibre pour toute chose, en toute chose. Donc l'état religieux est un exercice spirituel en vue d'acquérir la perfection de la charité. Ce qui se fait quand on s'écarte par les observances de la vie religieuse, quand on écarte par les observances de la vie religieuse, ce qui fait obstacle à la charité parfaite, c'est-à-dire l'attachement de l'homme au bien de la terre. Donc plus l'homme est attaché au bien de la terre, plus il va se détacher des biens du ciel. Et au contraire, plus l'homme est attaché au bien du ciel, plus il va se détacher des biens de la terre. L'entrée en religion est donc appropriée non seulement à ceux qui sont déjà exercés dans les préceptes, donc qui sont déjà dans l'état de perfection, afin de parvenir à une perfection encore plus haute, mais aussi à ceux qui ne le sont pas, afin d'éviter plus facilement le péché d'atteindre l'imperfection. On ne peut pas demander à un religieux qui commence une vie religieuse d'être déjà dans l'imperfection. J'ai déjà expliqué tout ça avec saint Thomas. Donc les pécheurs qui se convertissent et entrent en religion, donc en vie contemplative ou en vie religieuse, les pécheurs se convertissent et entrent en religion plus facilement que ceux qui se glorifient de leur innocence. Pourquoi ? Parce que les pécheurs qui veulent se convertir se rendent plus compte de ceux qui n'ont jamais péché, qui sont dans l'innocence. Les pécheurs qui se convertissent se rendent davantage compte à quel point ils ne peuvent rien obtenir sans l'aide du bon Dieu. Donc la charge, une belle phrase de saint Thomas, la charge des saints ordres doit être imposée au mur que la sainteté a déjà séché. La charge de la vie religieuse, au contraire, donne elle-même cette consistance au mur en épuisant le saint sointement des vices. Et donc il faut d'abord s'être purifié avant de se lancer dans la vie contemplative. Donc il n'est pas, c'est la conclusion de saint Thomas, il n'est pas davantage nécessaire de pratiquer les commandements dans le siècle avant d'entrer en religion, d'autant moins nécessaire que la vie séculière ne prépare pas à la perfection religieuse, mais bien plutôt l'empêche. Donc la vie religieuse n'est pas interdite aux pécheurs qui se convertissent, même s'il faut quand même toujours attendre, donner une certaine période d'attente pour être sûr que la conversion est stable et va durer. Article 2 de la question 189, est-il licite d'obliger par vœu certaines personnes d'entrer en religion ? Ben voilà ce que répond saint Thomas d'Aquin. Il répète d'abord les premières choses. Selon son principe, nous avons dit plus haut, en parlant du vœu, qu'une même action accomplie en exécution d'un vœu mérite plus de louange que faite sans vœu. Hein? Donc, les choses faites au service de Dieu sous l'obligation d'un vœu sont plus parfaites que ces mêmes choses faites sans l'obligation du vœu. C'est ce que va expliquer saint Thomas. L'œuvre bonne est plus louable lorsqu'elle vient d'une volonté plus confirmée dans le bien par un vœu. Il est donc louable en soi de s'obliger par vœu à rentrer en religion. Celui qui a fait un vœu ne peut plus parvenir au salut à moins d'accomplir son vœu. Ce n'est pas une nécessité que l'on doive éviter. Tout au contraire, dit saint Augustin, heureuse nécessité qui nous conduit vers ce qui est le meilleur pour nous. Beaucoup de gens sont rentrés en vie religieuse à la suite d'un vœu. Un vœu libre, librement consenti, librement prêté. Article 3 de la question 189. Ceux qui se sont obligés par vœu à rentrer en religion, sont-ils tenus d'accomplir leur vœu ? Et la réponse est évidemment positive. Faire un vœu est matière de conseil, personne ne vous y oblige, mais quand le vœu a été fait, son accomplissement est rigoureusement exigé. Donc le vœu est une promesse, il répète, promesse faite à Dieu portant sur des choses qui ont relation à Dieu. C'est pourquoi, dit-il, on est tenu en rigueur de faire ce qu'on a avoué du moment qu'il s'agit de quelque chose qui soit relatif à Dieu. Attention, quand il dit qu'on est tenu de faire ce qu'on a avoué, à condition bien sûr que l'objet du vœu soit licite. Rappelez-vous, Hérode, qui avait voué de donner à la danseuse Hérodiade, Salomé, de lui donner tout ce qu'elle demandait, n'avait pas le droit de lui donner la tête de saint Jean-Baptiste parce qu'elle avait demandé quelque chose d'immoral. Donc, en conclusion, celui qui a fait vœu d'entrer en religion, il est tenu suivant l'intention qu'il a eue de s'y obliger. C'est-à-dire que s'il a eu l'intention de s'obliger absolument, il est tenu d'entrer le plus tôt possible et dès que les empêchements légitimes auront disparu. Mais s'il est obligé pour une date déterminée ou sous telle condition, il est tenu d'entrer en religion au temps prévu ou lorsque la condition se trouve réalisée. Bon, il est évident, Thomas explique aussi, que dans certains changements de circonstances, eh bien, le vœu ne peut ne plus avoir à s'appliquer parce que les circonstances ont complètement changé. Vous avez fait de rentrer dans tel couvent. Bon. Et puis, le couvent, vous ne pouvez pas y rentrer tout de suite. Vous avez décidé d'attendre 2-3 ans avant de rentrer pour pouvoir mettre vos affaires en règle. Et puis, au moment où vous voulez rentrer, il est temps de rentrer dans le couvent, vous apercevez que le couvent, le monastère, a complètement viré et passé au modernisme dans l'église de Vatican II. Est-ce que vous êtes toujours tenu d'y rentrer? Bien sûr que non. Donc, il cite une décrétale du Moyen-Âge qui conseilla à l'évêque de Grenoble, qui avait reçu l'épiscopat après avoir fait le vœu d'entrer en religion et sans l'avoir accompli, le conseil était de résigner le gouvernement de son église de Grenoble s'il désirait mettre ordre à sa conscience et de rendre très haut ce qu'il avait voué. Il ne faut pas oublier que par l'entrée en religion, on obtient la rémission de tous ses péchés. En fait, par la profession solennelle correspond à l'indulgence plénière qui efface non seulement les peines temporelles de tous les péchés. Donc, tous les péchés, les peines du purgatoire sautent pour quelqu'un qui fait une profession religieuse, hein, au moment de la profession solennelle et définitive. Si l'on peut satisfaire pour ses péchés moyennant quelque aumône, voilà, selon cette parole de Daniel, rachète tes péchés par des aumônes, à plus forte raison doit-on considérer comme satisfaction suffisante la consécration totale de soi-même au service de Dieu par l'entrée en religion. Article 4 de la question 189, ceux qui font vœu d'entrer en religion sont-ils obligés d'y demeurer toujours? Et donc il va répondre par la positive. Celui qui fait vœu d'entrer en religion, il va répondre par la négative, pardon. Celui qui fait vœu d'entrer en religion n'est pas tenu d'y demeurer toujours. Pourquoi? Parce que les circonstances peuvent changer. Bon, il vaut mieux, dit-il, entrer dans la vie religieuse à titre d'essai que de ne pas y entrer du tout. On se dispose à y demeurer toujours. Quelqu'un fait vœu de rentrer dans un couvent, par exemple, dans un monastère. Donc il rentre dans le monastère pour remplir son vœu. Et puis au bout de 2 ans, le maître des novices lui dit, écoutez, mon frère, vous n'êtes pas fait pour la vie religieuse. Tous les pères sont d'accord maintenant, dans le couvent, vous êtes braves comme tout, mais vous n'êtes pas fait pour la vie religieuse, c'est pas pour vous. Donc retournez dans le monde. À ce moment-là, il est délié de son vœu de persévérer dans de rester dans la vie religieuse. Donc, le moine, à ce moment, doit donc changer de propos et vouloir à tout le moins faire l'essai de la vie religieuse pour l'expérimenter si elle lui convient. Mais il n'est pas tenu d'y demeurer toujours. Si l'expérience lui montre, l'expérience des anciens, de ce supérieur, du maître des novices surtout, lui montre qu'il n'est pas fait pour ça, à ce moment, il peut sortir. Article 5, un article un peu spécial, il surprend un peu. Doit-on recevoir les enfants dans la vie religieuse? Ça, c'est des choses qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, justement, parce qu'on est un peu lavé malheureusement par l'eau du libéralisme. Donc, il cite notre Seigneur, « Laissez venir à moi les enfants, gardez-vous des en empêchés. » Nous devons faire attention pour ne pas mépriser ce prétexte de sagesse supérieure, et comme des personnes qui se croient grandes, les petits parmi nos frères, en empêchant les enfants de venir à Jésus. Donc, si un enfant, avant l'âge de la puberté, n'ayant pas encore le plein usage de la raison, émet un vœu simple, il n'est pas lié par son vœu, parce qu'il n'y a pas encore l'usage de raison. Si bien que n'ayant pas l'âge de puberté, il a l'usage de la raison, son vœu l'oblige pour ce qui le regarde. Mais cette obligation peut être enlevée par l'autorité de son père, au pouvoir duquel il se trouve pour toujours. Mais s'il a dépassé l'âge de puberté, l'autorité des parents ne peut plus révoquer son vœu. Pour répondre à cet article de saint Thomas, doit-on recevoir les enfants dans la vie religieuse? Le plus bel exemple, c'est l'exemple de la très sainte Vierge Marie elle-même. Elle avait 3 ans, vous vous rendez compte? 3 ans, petite gamine de 3 ans, quand elle est allée au temple, pour servir au temple. Elle est restée 11 ans au temple, un peu plus de 11 ans même, puisqu'elle s'est mariée à Saint-Joseph à l'âge de 14 ans. Donc elle a passé 11 ans à servir Dieu dans le temple de Jérusalem. Et elle avait 3 ans lorsqu'elle est rentrée au service du temple de Jérusalem. 3 ans, c'est pas beaucoup, hein. Imaginez que votre enfant de 3 ans vient vous dire un matin, maman, papa, je veux rentrer au monastère. Vous feriez une tête. Et pourtant, c'est ce qui s'est fait avec la Sainte Vierge Marie. Saint Thomas d'Aquin a été placé chez les bénédictins pour étudier chez les bénédictins et suivre la vie religieuse avec les bénédictins. Attention, on ne se contentait pas d'étudier. Il suivait aussi la vie religieuse, au moins en partie, avec les moines. Et ça ne l'a pas empêché de devenir un très très grand saint. Et certainement, il ne serait pas devenu un si grand saint s'il n'était pas rentré en vie religieuse quand il était très jeune. Je ne me rappelle plus quel âge avait Saint Thomas d'Aquin. Je crois qu'il avait 6-7 ans quand il est rentré en vie religieuse. Non. Si les enfants ne peuvent faire profession avant l'âge de puberté, ils peuvent, du moins, du consentement de leurs parents, être reçus en religion pour y être élevés. Avant, c'était souvent le cas. Les enfants, souvent de familles nobles, partaient, entre autres, en vie religieuse pour être éduqués par les moines. Et les moines faisaient d'ailleurs aucune différence au niveau du niveau social. Donc le fils du cerf est élevé de la même façon que le fils du prince. Et donc, c'est pas du tout une mauvaise chose pour un enfant de vouloir rentrer en vie religieuse. Bon, c'est évident qu'il faut aussi du bon sens. Actuellement, certainement, je pense, du manque de maturité des enfants, qui n'est plus la même maturité que la maturité des enfants Moyen-Âge. Bon, c'est évident qu'un enfant de 3 ans demanderait à rentrer dans un monastère. On dirait vraisemblablement non. Mais saint Thomas conclut en disant que c'est un bien pour l'homme d'avoir porté le joug depuis son adolescence. C'est d'ailleurs la pratique commune d'appliquer les enfants aux professions, aux métiers où ils devront suivre, ils devront vivre. Donc, il est évident que lorsque des enfants rentraient en vie religieuse comme ça, ils ne pouvaient pas faire tout de suite leur vœu définitif. Donc on attendait qu'ils aient l'âge de raison et qu'ils soient bien entraînés en vie religieuse pour vérifier qu'ils voulaient persévérer dans la vie religieuse une fois adultes. Article 6, donc je reviendrai à cet article 5 avec le petit excursus sur Saint Thomas, je vais le faire dans 5 minutes. Donc, faut-il détourner, article 6 de la question 189, faut-il détourner certains d'entrer en religion en cause du devoir d'assister leurs parents? Hein? Donc, saint Thomas va répondre en disant qu'il ne serait pas permis à quelqu'un qui aurait des enfants d'entrer en religion sans se soucier aucunement d'eux et sans avoir pourvu à leur éducation. Donc, il faut remplir son devoir d'État. Si les parents se trouvent dans une telle nécessité que seule l'aide de leurs enfants peut convenablement y pourvoir, ces enfants n'ont pas le droit d'abandonner le soin de leurs parents pour entrer en religion. Mais si leur nécessité n'est pas telle qu'ils aient sérieusement besoin d'assistance de leurs enfants, ceux-ci peuvent abandonner le service de leurs parents et entrer en religion, même contre leur défense. En fait, dans la pratique, comment ça se passait? C'est que si un jeune rentrait en vie religieuse, un monastère par exemple, et puis d'un seul coup, ses parents tombaient malades et avaient impérativement besoin de la présence de leur fils unique, par exemple, pour ne pas mourir de faim, eh bien, le moine était obligé de quitter son monastère pour s'occuper des parents. Bon. Et par contre, il n'était plus tenu s'il avait fait ses vœux définitifs. Ses vœux définitifs, il appartenait complètement au bon Dieu et à ce moment était délié en quelque sorte de l'obligation. Cependant, la prudence demandait parfois au couvent de s'organiser matériellement pour que les parents d'un moine qui était déjà moine profet puissent obtenir une aide matérielle pour pouvoir ne pas mourir de faim. Donc, rappelez-vous, le Seigneur lui-même qui reprit ce disciple qui refusait de le suivre immédiatement en alléguant la nécessité de donner la sépulture à son père. Il y avait d'autres personnes capables d'y pourvoir. Ce jeune qui demande à rentrer suivre notre Seigneur et qui dit, il faut d'abord que j'aille enterrer mon père. Hein? Et notre Seigneur de répondre, laissez les morts enterrer les morts. Il y a d'autres personnes capables d'y pourvoir. Donc, si quelqu'un se trouve, c'est la conclusion de saint Thomas, si quelqu'un se trouve obligé de rendre des comptes ou d'acquitter une dette précise, il n'a pas le droit de passer outre à cette obligation pour entrer en religion. Article 7, les curés ou archidiacres peuvent-ils entrer en religion? Ça va assez vite. Donc saint Thomas dit, l'obligation du vœu perpétuel l'emporte sur tout autre. Donc les curés et les archidiacres ne sont pas comme les évêques voués au soin des âmes par un vœu perpétuel et solennel. Les évêques ne peuvent pour aucun motif se démettre de leur charge, à moins d'y avoir été autorisés par le pontife romain d'après une décrétale. J'ai déjà expliqué tout ça. L'évêque est marié à son diocèse, donc ne peut pas quitter son diocèse pour entrer en couvent, dans un monastère, sans l'accord express du pape. D'accord? Mais le curé, lui, n'est pas lié de la même façon. Il n'a pas le même lien avec sa paroisse, et donc il peut suivre la vie religieuse si le bon Dieu l'appelle à cette vie religieuse. Donc, les curés et les archidiacres sont libres d'entrer en religion. Alors, il répond à l'objection des gens qui disaient, mais à ce moment-là, si tout le monde rentre en vie religieuse, la vie naturelle va s'écrouler. Et saint Thomas de répondre, la vertu est rare et n'est pas désirée par le plus grand nombre. Article 8. Peut-on passer d'un ordre religieux à un autre? Bon, voilà ce que va répondre saint Thomas. Il répond positivement. On peut passer d'un ordre religieux à un autre. Bon. Surtout quand c'est un ordre plus parfait. Lorsqu'on y est poussé par le désir d'une vie religieuse plus parfaite, ou parce que l'ordre auquel on appartient est déchu de sa nécessaire régularité, ou pour cause de maladie ou de mauvaise santé. S'il est reconnu que l'ordre nouveau dans lequel on veut rentrer est plus parfait, cette permission ne peut pas être refusée par les supérieurs. Article 9. Doit-on engager les autres à entrer en religion ? Non seulement, dit saint Thomas, ceux qui en attirent d'autres à la vie religieuse ne pêchent pas, mais ils méritent une plus grande récompense. On ne peut pas obliger quelqu'un à rentrer en religion, mais on peut lui conseiller, surtout quand on voit dans cette personne tous les signes d'une vocation religieuse. Et ces signes sont relativement simples. Saint Alphonse de Ligurie donne trois signes de la vocation religieuse ou de la vocation sacerdotale. D'abord, l'absence d'empêchement. Ensuite, une intention droite. Et enfin, troisième signe, d'être accepté par un supérieur. Bon. Il est évident que c'est actuellement un problème énorme. Moi, j'avoue que actuellement, j'ai pas de jeunes qui pensent à la vocation qui sont venus me voir récemment, mais quand des jeunes pensent à la vie religieuse, je sais vraiment pas où je les enverrai. Vraiment pas où les enverrai. Pas question de les envoyer dans la Fraternité des Abilis qui a joint l'Église de Vatican II. Mais un jeune qui voudrait rentrer au séminaire, où l'envoyer, je ne sais pas. Je ne peux plus en conscience envoyer maintenant un jeune, par exemple, à me conseiller de rentrer chez Mgr Dolan ou Mgr Sanborn aux États-Unis, ou même à la fraternité de la Bericosa en Italie, malgré la haute valeur de ces instituts, à cause de leur attitude totalement schismatique concernant le pape Pie XII. J'ai déjà expliqué, donc ces organisations religieuses, donc ces séminaires, c'est l'association Boni Consigli de la Bericosa, prétendent reconnaître le pape Pie XII comme pape légitime, donc ils sont tenus à suivre les réformes liturgiques qu'il a introduites dans le missel romain, mais ils refusent, dans la pratique, de suivre ces réformes parce qu'ils en font qu'à leur tête. Et ça, c'est une attitude schismatique, totalement schismatique, qui n'est pas catholique. Ça, c'est très très dangereux, et là, c'est la porte ouverte au subjectivisme, au protestantisme. Et donc, je ne peux pas en conscience conseiller un jeune de rentrer dans une organisation de ce genre. Je pense qu'actuellement, j'aurais un cas de ce genre, un jeune qui pense à la vie religieuse actuellement, la situation actuelle qui est la mienne, je ne sais pas ce que je ferais, mais je crois que j'essaierai de m'arranger pour pouvoir, d'une façon directe ou indirecte, lui doit faire donner une bonne formation, et puis une fois qu'il a vraiment une bonne formation religieuse, le faire ordonner prêtre par un évêque sûr au niveau de la validité de son ordination, de sa consécration épiscopale. Article 10, est-il requis de délibérer longuement avec sa parenté et ses amis pour entrer en religion? Est-ce qu'il faut attendre pendant un très longtemps, prendre conseil à droite à gauche pendant des années avant de se décider de rentrer en religion? Saint Thomas répond non. Il donne l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui appelle Saint Pierre et Saint André. Sur le champ, abandonnant leur filet, ils le suivirent. Bon, certes, c'est notre Seigneur qui appelle, mais le principe reste le même. Donc les consultations sont superflues, dit saint Thomas, lorsqu'il s'agit d'affaires sûres et bien déterminées. Si vous êtes sûr de la vie religieuse, de votre vocation, de votre appel de Dieu pour une vie religieuse déterminée, il n'y a pas besoin d'attendre pendant des années. Pourquoi? Parce que cette entrée par elle-même, dit saint Thomas, en vie consacrée, représente un bien supérieur. Et là, il cite saint Augustin, « L'Orient t'appelle, c'est-à-dire le Christ t'appelle, et tu t'attardes à regarder le couchant, c'est-à-dire l'homme mortel et faillible. Lorsque le bon Dieu t'appelle, tu ne regardes pas l'homme mortel et faillible, tu te lances dans la vie religieuse parce que tu sais que tu auras du bon Dieu les grâces dont tu as besoin. » Donc on peut considérer, dit saint Thomas, cette entrée en vie religieuse par rapport aux forces de celui qui se dispose à l'accomplir. De ce point de vue non plus, l'hésitation ne se justifie pas. En effet, ceux qui entrent en religion n'attendent pas leur persévérance de leur propre vertu, mais du secours de la puissance divine. Enfin, troisième point, dit saint Thomas, on peut enfin considérer la façon d'entrer en religion et dans quel ordre. Et là-dessus, on peut prendre conseil. On peut aussi prendre conseil de ceux qui ne mettent pas obstacle au projet. Vous voyez ? C'est triste de voir, par exemple, des jeunes qui se marient, qui prennent des décisions très rapidement de se marier très vite, et puis là, les parents ne voient pas d'obstacle. Par contre, dès qu'un jeune pense à la vie religieuse, à la vie consacrée, tout de suite, les parents disent « Attention, il faut prendre du temps, réfléchis bien, tu veux te tromper. » On a l'impression qu'ils ont presque honte, dans certains cas, d'avoir un enfant qui pense à la vie religieuse. Le fait, dit saint Thomas, que quelques-uns retournent en arrière ne prouve pas que leur vocation ne vient pas de Dieu. Donc le propos d'entrer en religion n'a pas à être examiné sur le point de savoir s'il vient de Dieu. Donc, dès qu'on est sûr, il faut pas attendre, dit saint Thomas. La crainte dont certains sont agités, cette inquiétude de savoir si par leur entrée en religion ils pourront parvenir à la perfection est déraisonnable et se voit contredite par l'exemple des grands nombres. Voilà, c'est ce que dit saint Thomas. Donc, et ainsi nous terminons ce traité magnifique des états de perfection. Donc, je voudrais rajouter quelques mots sur un très beau texte de saint Thomas qui est peu connu. Hein. Donc, j'en parle dans la conférence, dans la lettre doctrinale numéro 42, Vocation et don de soi. Et là, il y a un texte splendide de saint Thomas d'Aquin qui est peu connu et qui reprend exactement ce que vient de traiter saint Thomas d'Aquin à la fin de son traité sur les états de perfection. Alors, voyons un petit peu ce que dit saint Thomas d'Aquin. Attendez, il faut que je retrouve mon texte, il est là. Donc, le plus grand théologien de l'Église catholique, saint Thomas d'Aquin, a écrit en 1271 un petit traité, l'opuscule 17, peu connu, au titre très évocateur. Voilà ce titre, contre la pernicieuse doctrine de ceux qui détournent les hommes d'entrer en religion. Il est d'ailleurs tout à fait significatif, je le mets dans ma lettre, de savoir que cette œuvre a été traduite en français aux éditions du Cerf en 1935 par le père maréchal dominicain sous un titre totalement anesthésié, L'entrée en religion, sous le fallacieux prétexte qu'il était moins long et moins belliqueux. Donc, dans ce traité, ici résumé en quelques phrases, saint Thomas d'Aquin prend la défense de la vocation des enfants. Donc, il parle en 1271, 3 ans avant sa mort. Donc évidemment, c'est des choses qui aujourd'hui ne passent plus parce que on est déboussolé à cause de l'influence du libéralisme. Et voilà comment pensaient les gens au Moyen-Âge. Et saint Thomas se pose la question de savoir, donc il va citer évidemment le texte de saint Matthieu, « Laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Si l'on commence dès la jeunesse à étudier les professions que l'on exercera pendant la vie, pourquoi les futurs religieux ne pourraient-ils pas, dès leur enfance, se préparer à la vie religieuse? Pourquoi aussi détourner les nouveaux convertis de la vie religieuse? Les premiers disciples du Sauveur, saint Paul, n'ont-ils pas connu la vérité, suivi la vérité aussitôt qu'ils l'ont connue? Pourquoi les pécheurs convertis ne pourraient-ils pas, eux aussi, entrer en religion pour y faire de dignes fruits de pénitence? Après s'être éloignés de Dieu, ne doivent-ils pas mettre en toute leur ardeur à réparer par la pratique d'une vertu parfaite? Donc saint Thomas continue, oui, on voit. C'est à peu près le même texte, presque mot à mot, de ce que je viens de vous lire à la fin du traité sur les états de perfection. Donc l'entrée en religion, dit-il, est possible pour tous les hommes, même pour ceux qui n'ont pas pratiqué les commandements de Dieu dans le passé, du moment que leur conversion est vraie et profonde. Donc les préceptes suprêmes de l'amour du bon Dieu et du prochain, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, donc ce précepte dépasse de beaucoup les 3 conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, comme la charité, qui est la plus haute des vertus théologales et le lien de la perfection, dépasse considérablement les vertus morales qu'elle vivifie et rend méritoires. Donc les préceptes de l'amour de Dieu ne comportent aucune limite. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Donc tout chrétien, dit saint Thomas, doit désirer Dieu sans mesure et avec lui la perfection de la charité. Il doit tendre vers la vie éternelle et pas simplement vers un degré infime de vie éternelle. Les 3 conseils de pauvreté, chasteté et obéissance sont très inférieurs aux préceptes suprêmes de l'amour de Dieu et du prochain, mais ils sont une voie plus facile, plus sûre, plus parfaite pour arriver à la perfection de la charité. La vérité, dit saint Thomas, délivre de plus en plus ceux qui se donnent pleinement à elle. La vraie pauvreté spirituelle conduit à la suprême richesse, la chasteté, la virginité, à l'amour parfait qui ne passe pas, l'obéissance religieuse, à la contemplation qui se nourrit incessamment de la volonté divine et qui est le prélude de la vie du ciel. Et voilà la conclusion de saint Thomas. Allons-nous donner à nos enfants affamés des pierres et des scorpions, alors qu'en leur inculquant le don de soi pour l'amour de Dieu, nous pourrions les amener si facilement à la porte de la béatitude? Il nous faut dégager nos enfants des biens terrestres et les orienter vers les biens spirituels. Tous les biens de la terre, Jésus, Dieu fait homme, les a méprisés, afin de nous apprendre à les mépriser. Et tous les biens, les maux de cette terre qu'il recommandait de supporter, il les a supportés. Afin que nous n'allions pas chercher le bonheur dans les premiers, ni craindre le malheur dans les seconds. Vous voyez comment saint Thomas d'Aquin a ce génie pour synthétiser les choses et résumer tout ce qu'il veut dire. Encore une fois, nous avons du mal à comprendre ces choses-là, parce que nous sommes détruits par le libéralisme ambiant. Donc il faut prier pour les vocations. Ce sera ma conclusion. Prions, mes bien chers frères, pour les vocations religieuses en général, et la vocation sacerdotale. Priez aussi pour qu'on sache où envoyer nos prêtres, les gens qui se recommandent à nos prières, à notre discernement dans ce domaine-là. Et prions aussi pour toutes les vocations qui pensent à la vie religieuse, pour qu'elles ne se perdent pas au milieu du monde. Tout est résumé. Tu terminerais ce cours par cela. Tout est résumé dans la soutane elle-même du prêtre. Monseigneur Lefebvre faisait souvent remarquer que la soutane est composée de trois éléments. Le col romain, autour du cou, la soutane elle-même et la ceinture. Donc le col romain correspond à la vertu d'obéissance, parce que ça représente l'anneau de l'esclave. L'esclave, une période hélas de l'esclavage, donc était maintenu la nuit, rivé au mur par une chaîne, et rivé au cou de l'esclave, autour du cou de l'esclave, il y avait un cercle de fer qui représentait par le col romain, et l'esclave n'était pas libre de ses mouvements, surtout pendant la nuit, il était rivé au mur par une chaîne à partir du cou. Donc la soutane elle-même, par sa simplicité, par sa couleur noire, représente l'esprit de pauvreté, et la ceinture autour des reins représente la vertu de chasteté. Et c'est pour ça que ces trois choses sont tellement importantes. J'ai du mal à comprendre que dans certains pays, les prêtres traditionnalistes ne portent pas la soutane complète. Souvent, dans les pays de mission, par exemple, ils ne portaient pas le col romain. C'est peut-être qu'il faisait très chaud et humide. C'est vrai qu'il fait chaud et humide. Mais c'est pas une raison pour ne pas la porter. Pas porter le col, parce que le col représente justement le symbole de l'obéissance. Dans beaucoup d'endroits, les prêtres traditionnalistes ne portent pas, par exemple, la ceinture. Alors que la ceinture représente la chasteté, et dans certains endroits même, dès que les prêtres traditionnalistes quittent le prieuré, ils enlèvent la soutane carrément. Ils se mettent en clergyman. Mais le clergyman ne présente aucun de ces trois éléments. Dans le clergyman, il n'y a plus de col romain, une espèce de petite languette rikiki devant le cou, mais qui n'est pas un col romain, qui n'est pas un symbole d'obéissance. Il n'y a plus de soutane, donc il n'y a plus le symbole de la pauvreté. Et il n'y a plus de ceinture, donc il n'y a plus le symbole de la chasteté. En plus de ça, le costume ecclésiastique, c'est un costume civil. Vous voyez ? Donc il faut faire attention, je crois, d'essayer de repenser comme les gens du Moyen-Âge. Avant de critiquer saint Thomas parce qu'il conseille, il dit qu'il faut laisser les enfants rentrer en vie religieuse, avant de le critiquer, il faut penser, essayer de se remettre dans la pensée d'un siècle de chrétienté, dans lequel la société était centrée sur l'Évangile. Les préceptes de l'Évangile étaient prêchés au Moyen-Âge, attention. C'était pas parfait, mais ces préceptes étaient prêchés au Moyen-Âge. Donc demandons l'aide de la Très Sainte Vierge Marie pour protéger les vocations éventuelles de nos enfants. Nous allons terminer par une prière. Et donc, la prochaine fois, Dieu aidant, la prochaine fois, je commencerai une nouvelle partie de la Somme, la tertia pars, la troisième partie, sur la vie de notre Seigneur et le mystère de l'incarnation. Et mystère de la rédemption. Terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.